107.9.
Nous sommes le vendredi 26 novembre. Bonjour à tous, bienvenue sur France Inter. Bonjour Laurence Thomas.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, ce coup de pression des pêcheurs français dans le bras de fer avec le Royaume-Uni sur les licences de pêche. Opération de blocage en cours dans plusieurs ports. Nous serons dans un instant en Bretagne, à Saint-Malo. Les autres titres, Laurence.
La crise migratoire, autre sujet de discorde entre la France et le Royaume-Uni. La tragédie de mercredi dans la Manche n'arrête pas ces hommes et ces femmes à poursuivre leur quête de liberté outre-Manche dans ce journal Témoignage dans le campement de Grande-Synthe. Covid et restrictions de circulation aérienne à compter de dimanche finalement. Plus aucun vol entre le Maroc et la France. Et puis un soulagement pour bon nombre de parents. Il n'y aura plus de fermeture de classe dans les écoles primaires dès le premier cas de Covid détecté chez un élève. On en reparle avec votre invité à 8h20, Jérôme.
Oui, comment lutter contre le Covid à l'école? Nouveau protocole donc annoncé hier. Beaucoup de questions pour les élèves, les parents et les profs. Questions que nous poserons, que vous poserez au ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, invité du grand entretien à 8h20. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000. Et puis avant cela, 7h50, c'est l'auteur de bande dessinée Johann Sfar qui sera avec nous. Il publie aujourd'hui le 11e tome de sa série Le chat du rabbin.
France Inter. Les pêcheurs français ne décollèrent pas. 150 sont restés sur le carreau lors des attributions de licences post-Brexit pour pêcher dans les eaux britanniques. D'où cette offensive aujourd'hui de la profession, bloquer les exportations via les ports de Saint-Malo, de Ouistreham et de Calais, avant d'empêcher cet après-midi les camions d'accéder au tunnel sous la Manche. Bonjour Mathilde Dehimy, vous êtes en direct du port de Saint-Malo. D'où sera lancé dans une heure maintenant à ce blocage des ports?
Oui, c'est au bout du long môle des Noirs que les pêcheurs malouins vont jeter l'ancre dans une heure pour fermer le chenal principal. C'est une action symbolique, insiste Pascal Leclerc, le patron des pêcheurs. On n'est pas des va-t-en-guerre, mais attention, prévient-il.
Ça sera ciblé sur les bateaux qui transportent beaucoup de camelotes pour l'Angleterre ou les Anglo-Normandes, malheureusement. Là, c'est un coup pour faire voir que sur le sol français, on est unis en tant que pêcheurs professionnels. Et que si on nous écoute pas, on nous entend pas, on est capable du jour au lendemain de bloquer tous les ports. Hein. On a une force de nuisance qui peut être certaine. On voudrait pas en arriver là.
C'est le fret qui est visé, pas les passagers des ferries pour l'instant. Ici, on compte surtout bloquer un autre navire qui vient de Jersey chargé de produits de la mer. Mais c'est surtout à la Commission européenne qu'on en veut. Elle ne fait pas assez pression sur Londres, juste un ultimatum au 10 décembre, malgré les demandes de Paris, regrette Pascal Leclerc.
On est en otage d'une politique qu'on n'a pas demandé. Encore une fois, on n'a rien demandé. Et on se retrouve dans un jeu politique qui dépasse un peu tout le monde. Et l'Europe nous défend pas. On est leur enfant, on est des citoyens européens, et s'ils continuent comme ça, bah c'est pas des voix qu'ils vont avoir. Je peux vous dire que l'Europe est en train de prendre une cartouche par rapport aux armateurs si elle nous défend pas.
Ici à Saint-Malo, les pêcheurs ont obtenu 23 licences définitives, 9 provisoires valables jusque janvier. Il y en a 10 en attente, dont 2 navires sont vraiment en péril, car ils ne pêchent qu'en eau britannique et ils n'ont aucune nouvelle depuis 11 mois. À cette heure-ci, les marins sont encore en mer, ils vont directement boucher le port en rentrant et ça devrait giter un petit peu, car depuis une demi-heure, la pluie et surtout le vent se sont invités à cette mobilisation.
Mathilde Dehimy en direct de Saint-Malo avec Romain Lucquens pour les moyens techniques.
Autre sujet de tension post-Brexit entre le Royaume-Uni et la France, la question migratoire.
La mort avant-hier de 27 personnes dans la Manche est venue raviver cette guerre entre les deux pays. Les Britanniques accusent les Français au mieux de ne pas en faire assez contre les traversées clandestines et au pire de laisser faire pour punir le Royaume-Uni après le Brexit. Alors hier soir, Boris Johnson a demandé à Emmanuel Macron de reprendre en France tous les migrants qui auraient réussi à entrer sur son territoire. Le Premier ministre britannique de rappeler que l'UE a déjà conclu des accords de réadmission avec le Bélarus ou la Russie. En attendant, le milieu associatif et quelques élus ont rendu hommage hier soir aux victimes à Calais, Dunkerque, Grande-Synthe. Une tragédie qui ne fera pas reculer ces hommes et ces femmes dont l'objectif est de rejoindre l'Angleterre. Reportage de Diane Sprimont dans le campement de Grande-Synthe.
Ces quelques affaires sont prêtes au coin du feu. Hamash fait partie de l'opposition iranienne. Il a fui son pays par peur d'être pendu.
Ma tante m'a appelé mercredi soir. Elle pensait que j'étais dans le bateau des naufragés parce que j'ai tenté la traversée mercredi. Mais la police nous a arrêtés avant, donc on ne sait pas ce qui serait arrivé si j'avais traversé.
Après cet échec, Hamash revient au camp. L'atmosphère est très lourde. Ses amis lui racontent le naufrage, les 27 morts.
Quand je suis revenu, tout le monde est resté sous le choc pendant 2 heures. Tout le monde a peur. On ne sait pas ce qu'il va se passer. Ça sera peut-être nous les prochains ou nos amis. Personne ne peut savoir. Et la météo n'est pas vraiment bonne en ce moment.
Chaque notification sur son téléphone compte. Si Hamash n'a pas réussi à traverser mercredi, un de ses amis kurdes, oui.
Là maintenant, je n'ai toujours pas de nouvelles. Je ne sais pas s'il est en Angleterre ou s'il était sur le bateau qui a coulé. Peut-être qu'il m'écrira dans 6 ou 7 jours et il nous dira que c'est bon, il est bien en Angleterre.
Même s'il a peur, même s'il sait qu'il peut mourir, Hamash attend toujours le feu vert de son passeur. C'est prévu pour ce week-end. Et au moment de grimper dans le bateau, il imagine déjà ce qu'il se dira.
Inch'Allah.
Diane Sprimont, dans le campement de Grande-Synthe, Diane Sprimont de France Bleu Nord. Le Covid, lui, ne connaît pas de frontières. Ainsi, le ministre de la Santé, Olivier Véran, veut renforcer les contrôles en direction des non-vaccinés qui souhaiteraient venir en France et des voyageurs en provenance de pays classés orange et rouge. Retour également du test obligatoire pour se rendre outre-mer. Et puis, en raison des hausses des contaminations en Europe, le Maroc referme ses frontières aériennes avec la France. Tous les vols directs sont suspendus à compter de dimanche, finalement. Non plus ce soir, le temps de faciliter les opérations de retour dans les deux pays, car plus d'un million 300 000 Marocains vivent en France et près de 80 000 Français résident au Maroc. La décision n'est donc pas sans conséquence. C'est le reportage à Orly de Delphine Evenou.
Chariot de bagages et téléphone en main, Bouchra prévient sa mère. Elle devait s'envoler pour Rabat dans la soirée avant de renoncer à la dernière minute comme une dizaine d'autres passagers du vol.
En arrivant au guichet, présentant mon passeport, la personne qui était à l'accueil m'a dit « En fait, vous prenez un risque. Si vous partez, comme moi j'ai des impératifs ici, j'ai pas pu. » Je pense que c'est parti pour 2-3 mois en fait.
Sorti du hall 4, les passagers en provenance de Marrakech ont appris la nouvelle à l'atterrissage comme Soukaina.
Je l'ai appris là en descendant de l'avion par mes proches qui m'ont envoyé plein de messages. Heureusement que tu es rentré. Ils nous ont pas précisé, ils ont jusqu'à nouvel ordre. En plus, il y a mes parents qui sont encore là-bas. On devrait au moins nous prévenir une semaine à l'avance au moins pour s'organiser parce que là, on est vaccinés, on fait le test PCR, on fait le test PCR encore une fois à l'arrivée et du coup, au final, on ferme. Je comprends pas. Du coup, ça sert à quoi tout ça?
Dernier vol du soir en provenance du Maroc, Mounir arrive d'Agadir. Dire in extremis pour lui.
J'ai mon frère qui va arriver normalement lundi. Du coup, là, il va être bloqué parce qu'il n'arrive pas à trouver les billets. Il n'y a plus de billets, ils sont chers. Et il essaye de trouver soit un billet par la Belgique ou par l'Espagne, mais pour l'instant, il n'a rien trouvé encore.
Les vols d'aujourd'hui se sont rapidement arrachés car la suspension des liaisons était prévue pour ce soir. Tard hier, le ministère marocain des Affaires étrangères a finalement laissé 48 heures de plus, mais de nombreux voyageurs avaient déjà annulé leurs billets du week-end.
Delphine Evenou. Et dans la foulée des annonces du ministre de la Santé hier, 1 300 000 Français se sont rués sur les prises de rendez-vous pour le rappel vaccinal. 300 centres de vaccination vont rouvrir et s'ajouter aux 1 000 toujours en activité. Au-delà du vaccin, les autorités ont redit l'importance des gestes barrières pour endiguer cette vague qualifiée de fulgurante. Et à rebours de ces durcissements, à partir de lundi, les classes ne fermeront pas dès le premier cas de Covid. 8 500 sont fermées en ce moment partout en France. En maternelle et en primaire, lorsqu'un élève sera testé positif, tous les élèves qu'a seront testés à leur tour. Seuls les cas confirmés devront rester chez eux. Une mesure diversement accueillie. William Delesseux.
Un jour de soulagement à l'école primaire Descartes, au nord d'Asnières. La seule classe fermée pour cause de Covid vient tout juste de rouvrir. Les tests éviteront bientôt ces fermetures et quelques sueurs froides à ce père de famille.
Ça permet de ne pas garder forcément les enfants à la maison. Et ça nous dégage quand même d'une responsabilité supplémentaire puisqu'on doit quand même travailler. C'est pas plus mal pour moi.
Continuer d'aller à l'école, c'est tout ce que souhaite cette habitante du quartier à sa fille.
Voilà, je préfère qu'elle se fasse tester, comme ça au moins je suis rassurée.
Je veux pas.
Pourquoi tu veux pas?
Ça fait mal au nez. Ça fait des chatouilles et ça pique.
Et les tests pourront avoir lieu dans les établissements. Pour cette mère de famille, le dépistage n'a pas sa place à l'école.
Non, je trouve que c'est à nous les parents en fait. De le faire, c'est plus sécurisant pour eux parce qu'on est les parents.
Classe ouverte et recours au test, un assouplissement jugé dangereux par Fabienne Rouvray, secrétaire départementale du SNUPP-FSU.
Si on avait un dépistage hebdomadaire régulier, peut-être on pourrait réduire le nombre de contaminations, mais là, ce n'est pas du tout ce qu'on a. Il est incompréhensible d'alléger un protocole alors qu'on le renforce partout.
Sur la validité et le contrôle des tests remis par les parents, notamment, le syndicat demande des précisions à l'exécutif et espère des réponses avant l'entrée en vigueur de ces nouveautés.
William Delesseux.
France Inter, 7h10, arnaque et Black Friday sont des mots qui vont très bien ensemble, Laurent, surtout quand il s'agit d'acheter sur Internet.
Le chiffre d'affaires du e-commerce entraîné par les mastodontes Amazon, Le Bon Coin ou Vinted devrait atteindre 130 milliards d'euros à la fin de l'année 2021. Mais attention, le Black Friday est du pain béni pour les malfaiteurs spécialistes de la toile. Offre trop alléchante, sécurité bancaire insuffisante, produits vendus non conformes. Quels sont les pièges à éviter, Agnès Soubiran?
Premier conseil, mettre à jour ses appareils, notamment son portable, l'écran le plus utilisé pour commander par Internet. Éviter les Wi-Fi partagés, privilégier ensuite les sites sécurisés en HTTPS et ne pas cliquer sur un lien envoyé par une personne que vous ne connaissez pas. Benoît Grunemwald, expert en cybersécurité.
On sait que le Black Friday est l'occasion pour les cybercriminels d'essayer de nous attirer dans leur filet. Donc là, je pense à de l'hameçonnage par email et qui vont nous emmener sur des sites vers de la contrefaçon. Quand ce n'est pas purement et simplement un site qui propose tout simplement une arnaque où vous n'aurez juste rien en retour.
Sans arriver à ces extrémités, il faut aussi résister aux pressions pour vous faire acheter vite. Romain Roussel, de la Direction Générale de la Concurrence et de la Répression des Fraudes.
Il peut y avoir par exemple de faux sabliers qui leur indiquent que la promotion n'est valable que pendant très peu de temps, alors qu'en fait elle est renouvelée. Il peut y avoir également des compteurs qui montrent que le nombre d'articles en stock soi-disant est très réduit, alors qu'en fait ces compteurs sont fictifs. Et ne pas se focaliser sur le taux de réduction qui est affiché, qui dans certains cas peut être trompeur et gonflé artificiellement.
Enfin, les mentions légales doivent donner les coordonnées du vendeur, mail, téléphone et adresse. Et en cas de mauvaise expérience, signalez tout de suite le site frauduleux sur la plateforme Signal Conso de la DGCCRF.
Agnès Soubiran, enfin ce concert exceptionnel ce soir à la Maison de la Radio et de la Musique. Lang Lang, le pianiste virtuose chinois, il va jouer les variations Goldberg de Bach, un sommet de la musique baroque et du piano classique. Amélie Perrier a pu rencontrer le pianiste avant sa venue dans l'auditorium de Radio France qui affiche évidemment complet pour cette occasion unique.
Même un pianiste virtuose comme Lang Lang peut être impressionné par les variations Goldberg.
C'est vraiment une montagne gigantesque. J'ai commencé à le jouer quand j'avais 10 ans, après avoir vu une vidéo de Glenn Gould. Alors pour moi, c'est toujours resté dans mon cœur et dans mes rêves. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que je voulais le faire en concert, j'avais peur. À chaque fois que je pensais « je suis prêt », je ne l'étais pas du tout.
Plus habitué aux envolées lyriques des compositeurs romantiques, Lang Lang a dû consulter des spécialistes du baroque, retravailler la théorie, l'analyse des harmonies, pour trouver une interprétation qui perturbera les puristes, mais qui fait le succès du pianiste dans le monde.
Bach est très lyrique aussi, mais c'est vrai que c'est un style différent pour moi. J'ai toujours été fasciné par ça et à l'avenir, je vais jouer plus de baroque.
Et pour jouer ces variations Goldberg, Lang Lang a choisi l'auditorium de Radio France.
Vous savez, je suis venu le visiter il y a 3 ou 4 ans, voir cette salle, et après l'avoir vu, je me suis dit, c'est ici que je dois jouer mes variations Goldberg.
Pour son acoustique et la proximité, l'intimité qu'il va y trouver avec le public français, Lang Lang, Bach, un événement ce soir à Radio France.
Un événement que vous pourrez suivre en direct et en vidéo sur France Musique.
Très bien pour débuter sa journée un peu de bac. Merci Laurence Thomas. Dans 3 minutes, secret d'info. Enquête ce matin sur le patrimoine caché du diocèse de Paris.